Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que le congrès se passe bien pour vous, que vous prenez des décisions, que vous tombez de plus en plus amoureux de Jésus et que vous voulez le suivre. Alors, en tout cas, je prie encore vraiment qu'il y ait des déclics, des versets qui fassent écho dans votre vie. Et nous allons parler donc une vie de victoire sur le péché. Et pour démarrer, j'aimerais vous raconter une histoire vraie qui s'est passée il y a environ 200 ans. C'était au Royaume-Uni. Il y avait une conférence à peu près comme celle-ci, un peu moins de monde quand même. Il y avait plusieurs orateurs qui étaient invités. Et un des orateurs, à un moment, prend la parole et dit aux chrétiens présents à cette conférence que les chrétiens devraient, par l'amour de Dieu qui nous presse, l'amour de Christ qui nous transforme, atteindre dans leur vie ici-bas sur terre un état de perfection sans péché, une victoire sur le péché. Le public était un peu « Ouh, tu veux dire quoi par là ?» Et l'homme, de manière très humble, dit que c'est ce qu'il a réussi à faire dans sa vie. Il n'a plus de péché. Il n'y a plus rien en lui qui pêche. Alors, tout le monde est un peu outré. Malheureusement, à cette conférence, il y avait le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon. Ça vous dit quelque chose, Charles Spurgeon? C'est le prédicateur qui a peut-être transformé l'époque moderne de la prédication et des églises. Et Charles Spurgeon est un des orateurs à cette conférence. Le lendemain matin, histoire vraie, hein, Charles Spurgeon passe par la cuisine, remplit un pichet de lait, et pendant le petit-déj, il passe derrière ce prédicateur, alors que ce prédicateur est en train de manger. Charles Spurgeon verse un litre de lait sur la tête du prédicateur pour voir sa réponse. Humour typiquement britannique. Hein. Et cet orateur qui avait la veille dit que lui ne pêchait plus, se lève dans une colère, une rage, et lance quelques noms d'oiseaux à droite à gauche. Et Spurgeon le regarde, de genre de dire « Ah ouais, non, t'es pas encore parfait, mon garçon. » Il voulait juste, par l'humour, prouver que non, sur cette terre, nous ne pouvons pas atteindre cet état de perfection parfaite. Alors comment on va faire? Si aujourd'hui il serait une folie pour moi de vous dire « Vous devez arriver jusqu'à un moment où dans votre cœur il n'y a plus aucune inclination de péché », jamais je vous mentirai. Pourtant, nous sommes appelés à vivre une vie de victoire sur le péché. Notre atelier, c'est Remplacer pour résister, le guide pratique pour remplir ta vie avec plus de Christ. Et voici l'enjeu qui s'offre à nous. L'enjeu est le suivant. Notre caractère est fait d'habitude. C'est une citation de Stephen Covey. Et il dit, qui sème une pensée récolte une action. Qui sème une action récolte une habitude. Qui sème une habitude récolte un caractère. Qui sème un caractère récolte un destin. Dans l'intitulé de l'atelier, il est bien parlé de changer nos habitudes, d'accord? Si profondément ancrées en nous, en moi. Et on voit que cette citation peut nous montrer que l'habitude n'est qu'un maillon de la chaîne plus tard. Ça commence bien avant dans notre pensée, dans notre cœur. Et donc j'aimerais aller avec vous à la racine. Et le souci, c'est que l'apôtre Paul nous montre qu'il y a un réel défi. Voilà ce qu'il nous dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 15. « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Paul, hein, qui dit « Je ne fais point ce que je veux, et ce que je fais, et je fais ce que je hais. » Et il est en train de dire « Il y a deux choses en moi qui se battent. » Et si l'apôtre Paul le dit, c'est que je pense qu'on va le combattre aussi toute notre vie. Alors je suis à la fois découragé et encouragé en lisant ça, je ne sais pas vous. Je suis découragé parce que je dis « Waouh !» Si c'est aussi évident qu'il y a un combat de sanctification à faire, ça veut dire qu'on va se battre. Mais il y a la victoire possible. Et je suis encouragé parce que je le dis, même Paul, qui est censé être quand même un cran au-dessus, mille crans au-dessus de nous, il avait quand même le combat, ça montre qu'il y a de l'espoir, n'est-ce pas? En fait, quand moi je vois la vie des disciples, qui sont complètement à côté de la plaque, quand je vois la vie des disciples, une fois qu'ils ont le Saint-Esprit, à faire des fois des choses un peu hasardeuses, moi ça m'encourage de me dire qu'il y a de l'espoir. Et donc il y a un défi. Et pourtant, au centre de l'évangile, en fait, je vais vous dire que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'allez pas avoir de petits trucs, de petites astuces aujourd'hui pour changer. Tout se fait dans la nouvelle naissance. Tout se fait dans l'Esprit de Dieu qui vient habiter en vous, en moi, alors qu'on se tourne vers Christ, qu'on a placé notre confiance, et il nous donne de nouvelles motivations. Il nous donne de nouveaux désirs. Et l'évangile est assez clair. Voici ce que Tite 2, 11 à 14 nous dit. La grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer. Donc on l'a dit, hein, il y a des habitudes qu'on veut arrêter, renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre. Donc il ne nous dit pas arrêter. Il nous dit, il y a quelque chose qu'on arrête, mais on vit, on est dans l'action. On vit dans le temps présent, conformément à la sagesse, à la justice, à la piété. On est dans une espérance, on attend. On attend notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute, et de se faire un peuple, l'Église, qui lui appartienne, purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Donc là, on voit plusieurs choses. Un, il y a des choses auxquelles on veut renoncer, et il y a des choses que l'on veut faire, on veut vivre, et il y a des bonnes œuvres qui sont préparées pour nous. Alors, je vous rassure, les réformateurs, il y a environ 500 ans, un des réformateurs, Martin Luther, a dit la chose suivante. « J'ai voulu noyer ma chair, mes mauvaises habitudes, j'ai voulu les mettre dans l'eau et les noyer, et j'ai réalisé que ma chair savait nager. » Et c'est vrai, n'est-ce pas? Je pense qu'on est tous à réaliser qu'il y a des déclics qui nous arrivent et on marche sur la victoire, et des fois, il y a plus de combats, il y a plus de hauts, de bas, il y a une découverte de la vérité qui vient nous aider. Et voilà un peu le parcours que je vous propose cet après-midi. Normalement, on en a pour 40-45 minutes. J'ai déjà démarré là, donc 45 minutes d'atelier. Après, une demi-heure de questions, si ça vous va. J'essaierai d'être assez clair. S'il y a des choses pas claires, n'hésitez pas à revenir dessus. On va parler un peu d'anthropologie biblique. L'humain en 3D. En fait, pour comprendre tes habitudes, il faut comprendre qui tu es. Ton habitude, elle sort pas comme ça du chapeau. Et donc, il y a trois dimensions qui font ce que tu es aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on puisse les voir. Deuxièmement, j'aimerais vous donner un modèle biblique pour changer. C'est pas tiré du chapeau, encore une fois. Ça fait partie d'un livre de Ted Tripp qui s'appelle « Comment changer vraiment ?» Et il donne un modèle pour arrêter les mauvaises habitudes, remplacer par de bonnes. Et à partir de ce modèle, en fait, je vais vous donner sept outils sur les combats, je pense, qui sont peut-être les plus actuels dans nos vies. Au lieu de faire ça, faites ça. D'accord ? Au lieu de faire ça, faites ça. Je vais vous donner sept outils sur la vie de tous les jours que j'essaye de vivre moi ou en famille, dans mon église. Et encore une fois, je le répète, c'est pas une question de faire des choses par ses forces. C'est qu'on s'appuie sur la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit, qui nous permet justement d'aller sur la vérité. Et par cette vérité, on réussit à avoir un changement non seulement intérieur, mais extérieur. Ça vous va? Yes? On avance? Vous dormez pas? Non, ça va. C'était hier, là. J'ai fait l'intervention à 14h, juste après le repas du midi, c'était la digestion. Là, c'est bon, vous avez tous couru. Première dimension de l'humain en 3D, un peu d'anthropologie biblique, créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 26-27, vous verrez que tout ce que je vais citer sort de la parole de Dieu. Donc, dans la Genèse, Dieu crée l'homme et la femme à son image. Genèse 1, 26-27. Alors, ça a plusieurs répercussions, le fait que vous soyez que je suis créé à l'image de Dieu. Premièrement, il y a le caractère sacré de la vie. De la conception jusqu'au décès. Le caractère sacré de la vie. Deuxièmement, dans notre cœur, j'ai une soif d'adoration. Je suis créé à l'image de Dieu et je cherche quelque chose qui va me remplir. Constamment. On a un désir d'adorer, la musique, le sport, le style, peu importe. On a en nous un logiciel qui fait qu'on tend vers quelque chose de beau, de plus grand, qui nous dépasse. Dernièrement, quand on est créé à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? On porte une image, c'est l'image de Dieu. Pour illustrer ce que ça veut dire de porter l'image de Dieu, imaginez en plein milieu là, de la pelouse de l'IBG, je prends une image, un grand poster, donc une image, de William Wallace. Vous connaissez William Wallace, c'était un guerrier écossais, je suis écossais. Donc, et là, je suis trop fier, William Wallace avec sa peinture bleue, sa grosse barbe, son épée, son kilt, et je mets une immense image de William Wallace sur la pelouse de l'IBG. Quel est mon objectif pour vous? Qu'est-ce que j'essaye de faire quand je mets une image de William Wallace au milieu de la pelouse, à votre avis? De vous le faire connaître? Bien. Quel est mon objectif? Ouais. Lui rendre hommage? Aussi, bien. Oui.
Montrer son amour que tu as de l'amour.
Oui, mon intérêt pour lui, exactement.
Que tout le monde le voit.
Que tout le monde le voit. Et là, tout ça, c'est bon. Hein. Mon objectif, si jamais je mets une image de William Wallace sur la pelouse aujourd'hui, c'est attirer votre attention sur William Wallace. J'essaie de capter votre attention pour vous dire, regardez, il y a William Wallace. Alors imaginez, quel est l'objectif de Dieu en ayant mis 8 milliards de porteurs d'images sur Terre ? D'attirer l'attention sur lui. Le porteur d'image est magnifique en fait. Vous êtes une création magnifique. Vous l'êtes. Et Dieu attire à lui-même l'attention de toute chose quand il a placé son image en vous. Et c'est glorieux en fait d'être créé à l'image de Dieu. On n'est pas des animaux, on n'est pas une espèce égale à qui que ce soit. On est des humains et c'est glorieux. Deuxièmement, on est pécheurs. On l'a vu, on est pécheurs. Et les deux vont de pair. Donc c'est pas 50% créé à l'image de Dieu, 50% pécheur. Non, non. On est 100% créé à l'image de Dieu. Ce qui me permet de voir des amis qui ne connaissent pas Jésus et de trouver que ils sont bien faits, je veux dire, ils sont humains, ils ont des bons réflexes, ils sont créés à l'image de Dieu. Mais à la fois, on est pécheur. On l'a vu, non seulement de ce que l'on fait, mais également de ce que l'on est. Romains 3. 9 à 12 nous dit « Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a point de juste, pas même un seul. » On a vu aussi dans la plénière hier que le péché est bien plus que « Oh, j'ai fait une chose mauvaise. » Le péché, c'est une disposition de cœur. C'est un état d'esprit. Le péché, c'est de faire une bonne œuvre que l'on croit qui va être suffisante pour Dieu. Ou de faire une bonne œuvre en croyant que ça va contrebalancer. C'est d'avoir une relation transactionnelle avec Dieu. En fait, de croire qu'il y a encore un espoir en nous, en soi, c'est un péché. Donc c'est hyper vaste. Le logiciel est extrêmement bien implanté en nous, en moi, et on est pécheur. Et la conséquence, elle est gravissime. Et elle peut être rétablie par la croix, par l'alliance faite en Christ, par son sang. Mais on voit que... on continue de marcher sur cette terre après être sauvé, et on voit qu'il y a des choses qui restent, ou il y a des choses qui traînent, et comment on fait ? Soit on remet en cause son salut, soit on se dit « j'ai besoin d'une délivrance une fois pour toutes, pour tout. » Comment on fait ? Et c'est tout l'objectif de l'atelier. Troisième dimension, on est vivant. Alors, qu'est-ce que j'entends par vivant ? J'entends pas le vivant par le terme « né de nouveau ». On est vivant dans le sens « on a une histoire de vie ». Et là, je prends un exemple dans Exode 37 à 45, c'est l'histoire de Joseph. Joseph est passé par tellement de hauts, de bas, de souffrances, de galères, et ça l'a d'une certaine manière formé, forgé. Vous avez une histoire de vie. Quelques questions auxquelles j'attends pas de réponse. Est-ce que vos parents sont encore mariés ? Est-ce que vous avez un papa ou une maman décédé ? Est-ce que vous avez vécu un décès ? Est-ce que vous avez vécu beaucoup de déménagements dans votre enfance ? Est-ce que vous êtes en échec scolaire en ce moment ? Est-ce que vous êtes passé par des situations abusives ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est la victoire sur victoire sur victoire là où vous en êtes, vous n'avez aucun souci dans votre vie ? Ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça vous façonne, et vous devez en être conscient, n'est-ce pas ? Il y a des choses dans ma vie que ma femme, elle, n'a pas vécu dans son enfance, et je réagis différemment de elle parce que j'ai un passif. J'ai un père qui est écossais, une mère qui est française, j'ai une double culture, j'ai l'impression d'être l'écossais en France et le français en Écosse. C'est très bizarre. Et c'est quelque chose auquel je réagis, hein, francophone, moi je suis français, je vois pas le problème. Et tout ça, c'est des choses qui nous arrivent, et les scientifiques et les sociologues réalisent aujourd'hui que 90% des choses qui nous arrivent, nous ne les contrôlons pas. En d'autres termes, on est dimanche, on prend la semaine qui arrive de lundi à dimanche prochain, 10% des choses qui vont arriver, c'est vous qui l'avez voulu ou qui allez les mettre en place. Et 90% des choses qui vont vous arriver, vous allez juste réagir vis-à-vis de ces choses-là. Un retard de bus, vous tombez malade, vous n'avez pas prévu ces trucs-là. Et résultat, votre génération, la génération Z, la Gen Z, est une génération qui réagit fort à la vie avec de la dépression, du stress, de l'anxiété, beaucoup de questions d'identité, identité sexuelle, de la colère, de l'agressivité, traumatisme, pensée suicidaire. Et résultat, être conscient de notre façon de réagir à ce qui nous arrive, sur lequel on n'a aucun contrôle, c'est extrêmement important. Et une chose à dire, ce qui vous est arrivé ne vous définit pas. Ce qui vous est arrivé dans votre vie ne vous définit pas. C'est Christ qui vous définit. C'est sa parole qui vous définit. C'est lui qui pose le mot sur votre vie. Si jamais vous avez eu quelqu'un qui vous a répété, un parent, un oncle, une tante, peu importe, un grand frère, des mots qui font écho dans votre cœur, dans vos oreilles, encore aujourd'hui, si ça ne fait pas partie de la vérité, c'est faux. Et c'est pour ça qu'on doit aller à Christ, pour avoir la vraie définition de qui nous sommes. L'humain en 3D est profondément transformé alors que nous venons à la lumière. D'accord ? Alors que la foi en Christ, qui est un cadeau, la foi c'est pas vous qui la produisez, hein. La parole de Dieu elle dit que quoi ? La foi est un cadeau. Donc c'est pas à nous de la produire, la foi elle nous est donnée. Cette foi, quand elle est donnée, vous avez les écailles qui tombent, vous placez votre confiance en Christ, dans son œuvre, mort, résurrection, ascension et la vie nouvelle qu'il vous donne, et ben vous avez un bouleversement qui arrive dans votre vie. Où vous réalisez certaines choses, où le Seigneur va vous faire réaliser au fur et à mesure des années, et le Seigneur, dans sa grâce, va faire que vous n'allez pas tout voir d'un coup, fort heureusement, mais on veut marcher dans cette victoire. Deuxième partie, comment changer le modèle biblique? Comme on l'a vu dans Tite, il y a cette question de renoncer, et cette question de vivre pour. Des habitudes qu'on arrête, des actions qu'on arrête, des pensées qu'on arrête, pour vivre de manière positive. Et cet outil est un outil d'un ministère de la parole, c'est-à-dire un peu comme la prédication, qui s'appelle le counseling biblique. C'est très simple, en gros, c'est présenter la Bible aux situations, aux péchés que l'on vit, pour voir comment nous pouvons transformer. Ce modèle, le voici, je vais le commenter, il va paraître un peu énigmatique au début, mais suivez bien avec moi. La manière dont il faut le voir, c'est que vous avez deux côtés. Le côté gauche où il y a du bon fruit, le côté droit où il y a les ronces. Ça va jusque-là ? Ouais ? Vous avez en haut les circonstances de vie. Les circonstances de vie, c'est ce qu'on appelle la chaleur. Okay ? La chaleur, c'est les événements que vous allez traverser dans la vie de tous les jours. Les difficultés, les blessures, les succès, les tentations, un examen, un divorce, une frustration avec votre frère ou votre sœur, des situations qui vous arrivent. Il y en a plein qui m'arrivent tous les jours, ils vont m'arriver ce matin, ils vont m'en arriver ce soir. Il y a des chaleurs de vie qui vous arrivent, ça va ? Quand cette chaleur de vie arrive, vous avez deux façons de réagir. La parole de Dieu nous enseigne que nous avons toujours le choix de notre réaction. C'est une des vérités centrales. Vous avez toujours le choix. Face à la tentation, vous avez toujours le choix. Vous ne pouvez pas dire « Oh, j'ai pas eu le choix ». Non, non, non. Votre péché fait que nous prenons si souvent le côté de l'égoïsme, de la fierté, pour aller pécher. Dieu nous montre qu'on a toujours le choix. Donc imaginez, circonstances de vie, chaleur, peu importe, qui arrive dans votre vie. Sur le côté droit, on va s'intéresser sur le côté droit, ça tombe dans une terre mauvaise. Ça tombe dans une réaction charnelle. La réaction charnelle produit quoi ? Des mauvais fruits, des ronces. Les ronces, c'est quoi ? C'est les réactions mondaines d'une personne vis-à-vis des situations qui lui arrivent. Les mauvaises habitudes entretenues par notre péché, et ces réactions mauvaises comprennent des attitudes, le cœur qui dirige les attitudes et les conséquences des attitudes. Exemple, si jamais vous êtes frustré d'un échec d'un examen, vous pouvez soit dire « Seigneur, t'es souverain, je veux apprendre à dépendre de toi et me relever », ou vous pouvez dire, dans le cas des ronces, « Ouh, ça m'agace » et donner un coup de poing sur le mur. Le coup de poing sur le mur peut amener à avoir une fracture, par exemple. Ah, une ronce. Le coup de poing sur le mur peut faire que le mur il est cassé, votre père va devoir retravailler le mur. Le coup de poing sur le mur peut entretenir votre colère, ou le jour où quelqu'un vous met en rogne, vous allez le taper lui. Cette ronce peut être... En fait, on réalise que le péché, on ne le maîtrise pas. Hein. Cette ronce peut être infinie. C'est-à-dire, je peux taper quelqu'un, on peut aller très loin, hein. Je peux aller jusqu'à tuer quelqu'un, on ne sait pas, en fait, jusqu'où on peut aller avec le péché. Le péché est une puissance à laquelle on est soumise. Donc on joue pas en fait. Ça va ? Donc une situation de vie, je réagis mal, des ronces arrivent. L'évangile nous apprend à renoncer à cette partie droite pour aller sur la partie gauche. Grâce à la force du Saint-Esprit, en s'ancrant sur la parole de Dieu. Et donc là, on voit qu'au centre, il y a la croix. Cherche Dieu, avec repentance et foi. Donc en fait, on se dit, mais attends, là, je sais comment je peux réagir dans cette situation-là. Seigneur, je vois mon cœur, je veux t'honorer. Qu'est-ce que tu dis dans ta parole sur la manière dont je dois me comporter maintenant ? Imaginons, il y a quelqu'un qui vient, vous êtes responsable de jeunes, vous êtes jeune, vous faites quelque chose à l'église de super, et quelqu'un vient vous voir après que vous ayez fait un service dans l'église, et vous dit, ouais, franchement, ce que t'as fait dans l'église, c'était pas super cool. Et toi, t'as tout donné, tu sais. Je comprends pas, j'ai vraiment voulu faire de tout mon cœur. Deux façons de réagir. Soit tu te mets en colère contre cette personne, soit tu dis, waouh, le Seigneur, dans sa parole, me dit, supportez-vous avec amour les uns les autres. Alors nous, on n'a aucun problème à Saint-Étienne pour se supporter avec amour. Je sais pas vous, mais nous, zéro problème. Et l'objectif, c'est de chercher Dieu. On doit connaître sa parole. Le Saint-Esprit doit habiter en nous. Pour, au travers Christ, nous donner le réconfort, la purification et la puissance de changer. Et forcément, quand on réagit par l'Esprit, ben, y a du fruit qui arrive. La joie, la paix, la patience, la fidélité. Et le fruit, il est comestible. C'est-à-dire que quand il y a l'Esprit qui produit du fruit en vous, c'est pas votre fruit, c'est le fruit de l'Esprit. Et l'un des principaux objectifs du fruit de l'Esprit dans la vie des chrétiens, c'est de faire quoi ? De nourrir les autres. Donc moi, quand je vois quelqu'un qui est plein de joie, plein de foi dans une épreuve horrible, qu'est-ce que je fais ? Ben, je vais le nourrir chez le frère. Il m'encourage. Moi qui aurais peut-être déjà abandonné. N'est-ce pas ? Et donc le fruit pousse dans votre vie. Et quelles sont les conséquences ? Et ben, c'est en fait... C'est un peu comme l'algorithme de n'importe quel réseau social. Si jamais tu cliques sur des choses, ça revient, n'est-ce pas ? Tu cherches une voiture, tu as des pubs de voiture. Et bien, si jamais tu cherches les choses en Christ, les choses de Christ vont te revenir. Franchement, c'est aussi simple que ça. Mais, c'est pas un truc. C'est pas un truc. On doit vivre une marche de disciple. Et donc, vous avez le sol de notre chair, la réaction charnelle, impulsive, émotionnelle, qui se base sur notre point de vue. Ça fait des épines. Alors les épines, ça peut être la calomnie, le mal-être, la tension, l'égoïsme, le désir de posséder, l'infidélité, bah, toutes les œuvres de la chair que vous voyez dans Galates et dans Éphésiens. Et franchement, ça ne fait pas rêver. Et on le récolte. Après 15 ans à servir dans les églises, la plupart des souffrances que j'ai vues, et une grande majorité, c'est des souffrances auto-infligées, par des mauvais choix faits. La plupart des souffrances dans ma vie, c'est des souffrances que je m'auto-inflige par des mauvais choix. Petits mauvais choix. Donc c'est important en fait de bien réagir. Et donc on a le sol de la vie de l'esprit, comme je l'ai dit, c'est chercher les choses d'en haut. On connaît notre cœur impulsif, mais on veut chercher Dieu. Et ça se fait par la repentance et la foi. Ça aura de bons fruits, croyance saine, comportement de la vie et de l'esprit, des nouvelles habitudes. Une des choses qui est importante, désolé, c'est pas mon ordinateur et... Je dois remettre le code. Hop, on a fait les circonstances de vie, on a fait les ronces, on a fait répondre par la croix, on a fait le bon fruit. On a toujours le choix, ça c'est une vérité sur laquelle on doit être d'accord. La cause de notre péché, c'est notre cœur. Si je réagis mal vis-à-vis de quelqu'un, c'est pas parce qu'il est relou. C'est parce qu'au fond de moi, j'ai un cœur qui réagit. Et si je suis constamment en train de dire « Ouais, mais en fait, en ce moment, je suis en colère parce que les gens m'énervent. » En fait, le problème, c'est les gens. Et comme on l'a vu, on ne peut pas avoir accès à la repentance si on ne se dit pas « Seigneur, oui, il y a des circonstances aggravantes, on le reconnaît, mais ça n'est jamais la cause. Ça, le péché est généré par notre cœur. » C'est ça que je veux dire. Et ça, c'est unique au christianisme. Parce que si on est en train de se dire, on se regarde les uns les autres, aujourd'hui je suis en colère parce que j'ai pas fini premier à la course, quelqu'un m'a dépassé. Ok, non, en fait le problème c'est peut-être une soif d'être vu, d'être aimé, alors qu'on devrait être vu et aimé par Christ. Donc la cause de notre péché c'est notre cœur, ça vient de Jésus. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est pas grave. Bah, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec Jésus. C'est grave en fait. Ce que j'aimerais vous laisser... Quelques secondes, vous pouvez prendre les notes, si vous avez le temps de le faire là, faites-le, sinon faites-le avant de partir de ce week-end. Identifiez quatre choses. Un, identifiez une chaleur de votre vie. Donc je parle, quand je dis chaleur, je dis un événement. Okay? Identifiez un événement présent ou passé qui vous a marqué. Ça marche ? Peut-être quelque chose en tête. Notez-le. Deuxièmement, notez et identifiez vos réactions charnelles. Comment vous avez mal réagi ? Ça peut être très simple. Ça peut être hier soir, au moment de se brosser les dents, il y a quelque chose qui s'est passé. C'était trop fort. Non, c'est juste mon péché, je te demande pardon. Notez votre mauvaise réaction. Troisièmement, notez les conséquences que ça a eues. Qu'est-ce que ça a engendré comme mauvais fruit ou on appelle ça des ronces ? Ça peut être dans votre vie, ça peut être dans la vie des autres. Et on voit que les choses ne sont jamais simples. C'est-à-dire que des fois, on est empatouillé dans des situations qui durent des générations où il y a plusieurs personnes qui sont dedans, et on se dit, mais ça démarre d'où ces ronces ? Et là, c'est chaud. Là, c'est super chaud. Donc, identifier la chaleur, vous pouvez le noter. Identifier votre réaction. Identifier les ronces, les mauvaises conséquences que ça a eues. Et les habitudes qui en découlent. Parce que souvent, comme on l'a dit, une habitude, c'est commencé par une action. L'action, elle est précédée par une pensée. Et ensuite, quatrièmement, tournez-vous vers le Seigneur et puis demandez de l'aide par sa parole à rectifier le tir. Aller vers Christ, hein. On l'a dit hier, reprenez la bonne direction, Seigneur, je veux revenir à toi, je vois qu'ici il y a quelque chose où je prends les mauvaises tangentes, ça m'arrive souvent, très souvent, pas souvent, je sais pas. Hein. Et justement, c'est là où on veut vivre, cette vie de victoire, elle commence là. Cette vie de victoire, elle commence par le renoncement d'identifier. Peut-être qu'il y a plusieurs parties qui sont incluses dans ce processus. Ça peut être plus compliqué, mais pour l'exercice, identifier chaleur, réaction, ronce, et surtout, comment maintenant avoir une réaction qui glorifie Dieu. Et franchement, il y a des choses, ça peut nous prendre, il y a des choses sur lesquelles je travaille dans ma vie, c'est en chantier, hein. Donc, mais on veut aller vers la victoire. On n'est pas en train de trouver des excuses pour justement être dans l'excusite. Vous savez que le seul moment où on a une fenêtre ouverte sur le cœur de Dieu, c'est quand Jésus il dit « Je suis doux et humble de cœur ». C'est le seul moment de la parole de Dieu où on a une fenêtre ouverte sur le cœur de Dieu. Alors oui, notre Dieu est un Dieu en colère contre le péché. Oui, notre Dieu est un Dieu de justice. Oui, notre Dieu est un Dieu saint. Et cette sainteté, cette justice et cette colère, elle est à tenir également avec la tendresse, l'altruisme, l'élan de Christ vis-à-vis de vous aujourd'hui et vis-à-vis de moi. Et si on vient vers Dieu comme ça en se disant « Oh, je vais me prendre une raclée !» plongeons-nous dans la parole de Dieu. Et si on croit que la repentance est « Oh, je me suis fait choper !» Mais non, en fait, la repentance, c'est la preuve que Dieu, on n'a pas fini avec vous. Voilà. Quand quelqu'un vient me voir et me dit c'est l'occasion rêvée pour aller « Ah oui !» Et si jamais je fais « Oh !» Bah non. Et là, on parle aussi de la question d'attrister le Saint-Esprit. C'est d'autres questions sur lesquelles on n'aura pas le temps d'aborder là maintenant. Alors, cet outil à notre disposition, on va les voir. Alors, à chaque fois, ça va être « Faites ceci au lieu de cela. » Ok ? Toujours basé sur ce schéma. Arrêtez les ronces et produisez du bon fruit. Ça marche ? Donc, on peut se référer au schéma. Il y a une chaleur qui arrive. Je peux réagir mauvais à des ronces dans ma vie. Et je dis ça de manière très rigolote, mais en fait, les ronces, ça peut détruire une vie. Hein. Ça peut être catastrophique. Mais vraiment. Vous avez, pour la majorité, entre 15 et 25 ans. Vous êtes comme un immense échangeur d'autoroute où vous prenez des décisions pour votre vie. Et quand j'ai fait le tour des États-Unis en 2009, on a traversé les États-Unis de fond en comble avec 6 potes. On était à Los Angeles, au plus gros échangeur du monde. Et on a réalisé que si on prenait la mauvaise voie, ben on était parti pour 15-20 km. On devait reprendre l'autoroute dans l'autre sens. 15-20 km, en fait, on perdait 2-3 heures avec les bouchons. Et donc, dites-vous une chose, c'est que vous êtes à ce moment d'échangeur dans votre vie. Si vous prenez les mauvaises directions, c'est pas à 17 ans et demi, vous faire « Oh, c'est bon, j'arrête ». Non, vous serez parti. Pour des fois des années. Ou des décennies. Donc, c'est sérieux, en fait. Première chose, confiez au lieu de flipper. Alors, j'étais un peu vulgaire, mais vous me pardonnerez. Confiez au lieu de flipper. Placez sa confiance en Dieu au lieu de vivre dans l'anxiété. Nous vivons dans une génération d'anxiété. L'insécurité dans nos rues, la corruption, l'inflation, l'insécurité dans le monde, les taxes douanières, la corruption, tout cela pèse sur vos cœurs et le mien. Mais le problème avec l'anxiété, c'est que ça va beaucoup plus loin. Nous avons tous une tendance à emprunter des soucis imaginaires. On s'imagine le scénario catastrophe, les choses pires qu'elles ne pourraient en fait être. Et comme dit un auteur, Keats, les chagrins imaginaires ont toujours causé davantage de tourments que les vrais soucis. Vous êtes d'accord ? Je suis le seul des fois à me faire des scénarios improbables sur des trucs minimes qui sont en boucle dans ma tête. Je suis le seul ? Non ? Ok, c'est bon, merci. Je suis moins seul là. Et c'est vrai, n'est-ce pas ? C'est pas qu'il y a des soucis, c'est qu'en fait, on en crée. Et si jamais vous n'êtes jamais passé par là, ça va venir. Quand j'avais 12 ans, les médecins sont venus voir mes parents et ils m'ont dit « Votre enfant fait de l'ataraxie. » Mes parents ont dit « Quoi ?» Dit « Moi, vraiment, hein, mes parents ont dit « C'est quoi de l'ataraxie ?» C'est que je ne ressens pas la peur, je ne comprends pas le danger. Donc c'est-à-dire que si je me balade en haut d'une falaise de 30 mètres, je dis « Tiens, je vais sauter. » Je ne vois pas qu'il y a un danger. Et jusqu'à 12 ans, les médecins allaient voir mes parents et disent « Votre fils, il ne voit pas de limite. » Le seul truc, c'est que bah, j'ai grandi, j'ai eu des enfants, j'ai eu des gros soucis dans ma vie, et d'un coup, l'anxiété, j'ai commencé à la vivre. Donc si ça vous avez jamais eu peur de votre vie, ça va venir. Les peurs imaginaires sont bien pires que les événements. Et l'Église, les chrétiens, ne sont pas hermétiques aux soucis du monde. Et donc l'objectif, c'est de confier au lieu de flipper. Et encore une fois, je vais utiliser un outil qui est dans un livre qui s'appelle... « Instrument entre les mains du Rédempteur » de Ted Tripp, et je vous conseille de lire ce livre-là, « Instrument entre les mains du Rédempteur » et « Comment changer vraiment ?» qui justement parle de cette question du cœur et des bonnes habitudes à prendre. Et voilà ce qu'il dit. Il nous montre deux cercles, vous les voyez? Vous avez au milieu le cercle de responsabilité, et au-dessus vous avez un cercle plus grand qui est le cercle de préoccupation. Le cercle de responsabilité... C'est là où Dieu nous appelle, en suivant sa parole, à obéir fidèlement. Comment je dois me comporter en tant que mari? C'est écrit dans la parole de Dieu. Je dois donner ma vie pour ma femme, je dois être fidèle, je dois la considérer comme plus importante que moi. Je dois obéir fidèlement. Comment je dois éduquer mes enfants? Comment je dois me comporter dans mon collège, dans mon lycée? Comment vous devez vous comporter devant un examen? Je ne dois pas tricher. En fait, il y a un cercle de responsabilité. Et vous avez... au-dessus, le cercle de préoccupation. Et dans ce cercle de préoccupation, vous êtes, et je suis appelé à confier à Dieu. Le seul souci, c'est que nous pouvons tomber dans deux catégories. Un, soit on veut vivre et être comme un mini-dieu. Ça représente cette flèche-là qui agrandit le cercle de responsabilité. En fait, on croit des fois que dans la vie chrétienne, on doit aller contrôler des choses non contrôlables. On essaye d'étendre notre cercle de responsabilité et faire le travail de Dieu. Et donc, des fois, dans notre vie, nous voulons avoir du contrôle sur des choses sur lesquelles Dieu ne nous appelle justement pas à aller avoir du contrôle. La manière dont les gens vous regardent. Est-ce que les gens vous aiment? Est-ce que vous êtes accepté? Est-ce que vous allez réussir vos examens? Est-ce que vous allez avoir des enfants? Est-ce que vous allez vous marier? Est-ce que vous allez vivre en France? Est-ce qu'il va y avoir une guerre? Tout ça, c'est des choses qui nous préoccupent et on est appelé à faire quoi? Les confier à Dieu. On n'est pas des mini-dieux. On n'est pas appelé à avoir du contrôle sur ces choses. Et donc, on prie pour ces choses-là. Et l'anxiété est générée à partir du moment où, justement, on sort de notre cercle de responsabilité et on essaye de faire le travail de Dieu. Et ça nous arrive tous les jours. Alors moi, il y a des choses dans mon église que j'ai envie qu'elles arrivent et quand elles n'arrivent pas, ça me gêne. Et résultat, au lieu de rentrer dans une spirale, je dis « Seigneur, je te confie. » Et il y a un autre problème, c'est qu'il y a parmi nous, dans ma vie, des fois, des irresponsables. Ça veut dire qu'on attend que Dieu fasse le travail à notre place. « Oh Seigneur, est-ce que tu peux faire que je sois... que j'aille à l'église ?» Non, en fait, lève-toi et vas-y. Il y a des choses où on attend que Dieu fasse les choses à notre place. On croit que Dieu va venir et... nous secouer alors qu'il nous a déjà dit, il nous a déjà révélé ce qu'on doit faire. Et donc on vit en tension à identifier ce qui est de notre sort et ce qui revient à Dieu. Et on a souvent du mal avec la souveraineté de Dieu. Ce qui nous arrive, pourquoi ça nous arrive. Pourquoi je dis ça? Si jamais vous vivez votre vie dans le grand cercle, vous serez constamment à flipper. Vous allez vivre dans la crainte, vous allez vivre dans l'anxiété, et vous allez vous dire au bout d'un moment, moi mais je suis quelqu'un d'anxieux. Non, c'est juste que si tu identifies les choses que tu essayes de contrôler et tu les rends à Christ et tu dis « Moi, je veux être responsable là où je dois être responsable », et bien en fait, on identifie et on honore Dieu. Et on remplace la peur par l'action. Et il y a plein de sujets en ce moment dans ma vie où je sens qu'il y a des tensions, que j'aimerais que ça se passe bien. En ce moment même, Mélissa, elle est enceinte de 8 mois plus. Elle devrait accoucher normalement dans un mois, 6 semaines. On verra. Je dis, Seigneur, je te prie vraiment qu'elle accouche pas là maintenant. Et ça peut mettre dans des situations de tourment horribles, n'est-ce pas? Et je dis, Seigneur, je veux te confier. On s'est mis devant Dieu avec ma femme, on a prié. Et devant Dieu, on sait que je suis bien à être là, elle est bien entourée, et je serai demain au retour à la maison, et je ne bougerai plus pendant 6 semaines. Mais c'est ça, et c'est hyper compliqué, parce que sinon on vit constamment en train de se culpabiliser, s'auto-flageller, j'aurais dû pas, il n'y a qu'un faucon, et on emprunte des soucis. Alors je vous encourage de vivre sur des petites choses à confier au lieu de flipper. Ça va pour le premier? Et franchement, hein, il n'y a pas de déclic automatique là-dessus. Vous allez... Alors peut-être il y en aura, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses que vous allez ramener à Christ demain. Ramener à Christ demain. Ce matin, j'ai prêché dans notre église à Saint-Étienne sur Jean 14. Petit aparté. Jean 14, premier verset, Jésus dit « Que vos cœurs ne se troublent point ». Pourquoi est-ce que les disciples sont troublés? Ils sont en flip. Parce que chapitre 13, Jésus leur dit « Je vais dans un lieu où vous ne pouvez pas venir ». Les disciples, ça fait 3 ans qu'ils vont partout avec Jésus. Ils disent, mais jamais tu nous as lâchés. Et Jésus dit, je vais aller à la croix. Et le soir, vous ne pouvez pas venir. Et là, il dit, non. Où on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est exactement les deux questions qui se posent. Et Jésus leur dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et les versets, croyez en Dieu et croyez en moi en grec, vous savez quoi? C'est au présent continu. Soyez en train de croire. Donc demain matin, on se dit encore la même chose. Est-ce que vous êtes en train de croire? Est-ce que vous êtes en train de confier? Est-ce que vous êtes en train de le faire? C'est pas le passé, c'est pas du présent, c'est du présent continu. Et ça, c'est extrêmement important. On est appelé, en fait, à renouveler. Donc, voilà, bon courage pour les semaines à venir. Il y aura peut-être des moments où on aura peur. 1 Pierre 5,7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Et on en aura. Et des fois, on a l'impression de crouler sous des soucis ou des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Mais on est dans un monde qu'on n'a pas créé, sur lequel on a très peu, voire aucun contrôle. Et je dois apprendre à marcher comme ça. Deuxième, aimer au lieu d'offenser. Aimer au lieu d'offenser. J'aimerais prendre 2 versets avec vous, Proverbe 10-12, 1 Pierre 4-8. Proverbe 10-12, la haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. 1 Pierre 4-8, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une multitude de péchés. Qu'est-ce que j'entends par aimer au lieu d'offenser? Vous avez le pouvoir par l'esprit et par la bonne nouvelle de stopper un feu qui est peut-être dans votre vie ou qui va arriver. Vous avez la possibilité d'ériger un barrage pour que l'amour que vous allez déployer dans une situation lambda que je ne connais pas évite que ça s'envenime. En fait, on ne sait pas quand on rajoute de l'huile sur le feu jusqu'où ça peut aller. Et l'Écriture nous dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Ça veut dire quoi? Imaginez, ici, je décide d'arrêter d'entretenir... telle et telle situation gênante, et je décide d'aimer, et c'est dur. Il y a des gens aujourd'hui qui m'en veulent sur des choses insignifiantes, et je décide moi de dire, je vais les aimer, et puis si je les crois, j'aurai un grand sourire. Et ils m'ont mis plein la vue, sur des sujets vraiment pas très graves, et eux, ils n'ont même pas fait attention, mais moi, ça m'a blessé. Et dans mon cœur, vu que la situation n'est pas extrêmement importante, mais suffisamment pour me gêner, je décide dans mon cœur de les aimer. Et le fait que je décide de les aimer, et c'est dur, c'est la réaction émotionnelle quand elle vient comme ça, c'est dur. Et ben, ça couvre toutes les fautes possibles et imaginables qui auraient pu arriver si j'avais décidé d'entretenir. Vous comprenez? L'amour va couvrir tout ce qui pourrait arriver. Et en fait, on réalise que la liste peut être infinie. Hein. C'est-à-dire, une friction, après une insulte, après des menaces de mort, après... on ne sait pas ce qui peut se passer quand on décide d'offenser constamment. Donc, je vous encourage, par la force que Dieu peut donner, si la situation le permet, aimer au lieu d'offenser. Il y a des choses sur lesquelles on passe au-dessus, quoi. Il y a des choses sur lesquelles, écoute, c'était pas super, c'est pas appelé à se reproduire toutes les 10 minutes, je vais pas en tenir compte, je vais demander à ce que Christ m'aide à aimer mes amis et mes ennemis, et je me rappelle qu'il a dit aux Éphésiens, supportez-vous avec amour. Et c'est comme ça qu'on veut le faire en Église, et les uns vis-à-vis des autres. Je mets un petit... Alors, c'est pas un bémol, mais je mets quelque chose... j'ajoute une information sur aimer au lieu d'offenser. Si vous n'êtes pas un paillasson, vous n'êtes pas un paillasson. Si vous êtes actuellement dans une situation d'abus, vous devez être reconnu comme victime devant la justice et la personne doit être emmenée au tribunal. Vous n'êtes pas un paillasson. La parole de Dieu ne nous dit pas « Oh, faites-vous marcher dessus, de toute façon c'est ça... » Non. Et si vous êtes dans une situation d'abus, votre cœur doit être au clair devant le Seigneur. Oui, vous ne devez pas surenchérir, mais les choses doivent être posées là où elles doivent être posées. Et je vous encourage à le faire, parce que sinon il n'y a pas de guérison possible. Et ça, je tiens à le dire, parce que sinon on croit que « Oh, mais je suis appelé à aimer au lieu d'offenser. » Je suis en train de me faire pilonner par je ne sais pas quoi de manière injuste, que ce soit émotionnelle, que ce soit physique, psychique, sexuelle. On m'a dit qu'il fallait que j'aime. Oh, ben j'y retourne. Non. Protégez-vous, allez voir les personnes. Et surtout, il faut que quelqu'un mette les mots sur « j'ai été une victime, c'est grave et je peux m'en sortir ». Aimer au lieu d'offenser. Fuir au lieu de résister. Fuir au lieu de résister. La parole de Dieu nous enseigne qu'il y a certaines choses que nous ne sommes pas amenés à résister. On n'est pas amené à aller frontalement contre certaines choses qui nous arrivent, certains péchés, parce que c'est trop dur, ou alors Dieu n'a pas voulu ainsi. Et là, je vais citer 1 Corinthiens 6, 18 et Job 31. 1 Corinthiens 6, 18, « Fuyez l'immoralité sexuelle, fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Fuir. Si vous connaissez le livre un peu référence de la pureté qui s'appelle Le choix de la pureté, quelqu'un l'a lu ? Le choix de la pureté, je vous le recommande. C'est vraiment un livre référence de Randy Alcorn. Le choix de la pureté, je vous garantis, vous n'êtes pas le même après. Il donne une illustration dans ce livre. L'illustration est la suivante. Imaginez un père et son enfant. Le père donne des recommandations à son enfant. Il dit à son enfant, s'il te plaît garçon, ne joue pas proche de l'autoroute, c'est dangereux. Les voitures vont vite, si jamais il y en a une qui divague, elle peut te percuter, elle peut passer au-dessus de la rambarde, ne joue pas proche de l'autoroute. Et dans son livre et dans son illustration, il explique que l'enfant se retrouve sur la bande d'arrêt d'urgence, mais il n'est pas sur l'autoroute. Et l'enfant regarde son père, il fait, papa, je suis pas sur l'autoroute, regarde. J'y suis pas, il dit, ah, j'y suis pas. Et il dit dans son livre, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est l'objectif du conseil du père quand il dit ne va pas sur l'autoroute ? Ben non. Quand il dit à son fils ne va pas sur l'autoroute, il dit mais va loin. Passe la rambarde, passe les grilles, va dans le champ, va sur le chemin de campagne et va chez mamie. Va pas sur l'autoroute. Et c'est exactement cette idée-là quand on pense à fuir l'immoralité sexuelle. Donc ça commence où ? Ce sera différent pour chacun, mais le conseil est le même. C'est pas un conseil, c'est un commandement. Fuyons. Je ne sais pas quelle image de flirt, quel temps de ta journée c'est plus dur, bah tu fuis, tu t'arranges pour fuir. Je dois m'arranger pour fuir. Donc attention aux flirts, aux images préliminaires, aux réseaux sociaux glissants. Et pensons que Job avait dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux, comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille ? Fuir au lieu de résister. Et si on essaie de résister, on se fait avoir, du moins sur l'immoralité sexuelle. Et c'est... encore l'idée de l'algorithme, plus vous allez partir, plus vous allez recevoir des en fait ça m'intéresse plus, oh puis ça m'intéresse plus, oh puis ça m'intéresse plus, et plus on se rapproche, plus les choses sont difficiles. Jacques, je ne l'ai pas noté, mais Jacques 4, 7, 8 nous donne trois mouvements. Il nous dit soumettez-vous à Dieu, donc on doit être un disciple qui veut vivre selon ce que Dieu a révélé. Résister au diable, il y aura un temps de résistance au diable, mais on résiste au diable, pas à l'immoralité sexuelle, et il fuira loin de vous. Et donc si on veut aller résister au diable sans être soumis à Dieu, ça va pas aller. Si on attend à ce qu'il nous fuit, juste en nous soumettant et sans résister, ça va pas aller. Notre Dieu nous dit, assure-toi d'obéir à ce que moi je t'ai révélé, viens par la grâce, tu te soumets à moi. Tu vas avoir un temps de résistance, ça peut durer une heure, ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois, je ne sais pas. Mais il fuira loin de toi. Et donc, il faut fuir au lieu de résister. Mettre à mort, quatrièmement. Mettre à mort au lieu d'entretenir, c'est un peu similaire. Mettre à mort au lieu d'entretenir, Romains 8, 13, 14, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit... vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mettre à mort au lieu d'entretenir, petite illustration qui pourrait, alors elle est limitée, mais qui pourrait peut-être aider pour saisir. Dans les années 40, il y avait une compagnie de militaires aux États-Unis qui était un peu l'équivalent du GGN, le top du top, qui se préparait au débarquement. Et un des soldats, un sergent, fait le débarquement en parachute avec toute sa compagnie, arrive en Normandie, et il perd sa compagnie lors du débarquement. Et il se pose dans un fossé, il a peur, et il s'endort. Et le lendemain, alors qu'il est un peu dans la campagne française pour essayer de retrouver sa compagnie, il la retrouve, et il retrouve son colonel. Et alors que le soir suivant, ils font un petit feu, et puis il y en a deux ou trois qui font la garde pour voir s'il y avait des soldats qui arrivaient, le sergent est avec son colonel et lui avoue. Et il lui dit, faut que je vous avoue, hier quand on a sauté, je vous ai perdu. Et j'ai eu peur. J'étais terrifié de ce qui aurait pu m'arriver. Et donc je me suis enterré dans un fossé et je me suis endormi. Et il y en a honte. Et le colonel, il le regarde et lui dit, sergent, est-ce que tu sais pourquoi tu as peur? Et le sergent lui dit, je sais pas. Et le colonel lui dit, tu as peur parce que tu crois qu'il y a encore de l'espoir. Le sergent dit, l'espoir de quoi? Le colonel finit en disant, tu réussiras à opérer comme un réel soldat quand tu accepteras que tu es déjà mort. Et quand tu acceptes que tu es déjà mort, tu es libéré, tu peux fonctionner et réellement aller te battre. Vous comprenez un peu l'histoire qu'il y a des choses dans notre vie auxquelles on réagit, on entretient, qui sont mortes. Et si vous avez déjà vu un corps mort, vous lui tendez une bouteille, il ne réagit pas. Il y a des choses dans notre vie qu'on est appelé à les mettre à mort. Et on doit les identifier. Ça, je dois le mettre à mort. Comment? On remplace le mensonge par la vérité. Comment? On essaye d'anticiper avant que ça arrive. On essaye de mettre des choses en place pour que ça ne réagisse plus. Il y a des choses qui sont entretenues dans notre vie et qui nous reviennent et on se dit c'est bizarre, c'est trop fort pour moi. Non mais en fait c'est pas mis à mort encore. Et ça peut passer d'une victoire à une défaite, mais nous devons voir en tant que disciples une vie qui grandit. Souvent on croit que ouais je suis un chrétien et paf, j'ai un saut et je vais devenir disciple et ça va aller. Ne vous attendez pas à cette espèce de saut libérateur, même s'il peut arriver. Attendez-vous à regarder votre vie. Et au fur et à mesure des années, vous voyez votre croissance spirituelle grandir. Il y a des temps de croissance, il y a des temps de tension, il y a des temps où on revient à Christ, il y a des temps où... Et vous dites, waouh, ça fait 2 ans que je suis à Christ et je vois qu'il fait une œuvre en moi. Et je vois que je suis mieux là où je suis aujourd'hui qu'il y a 2 ans. C'est ça là où on doit viser. Donc mettre à mort, je vous encourage aussi à cheminer pour aller à la racine quand on met à mort. Je m'explique. Dans mon cadre de ministère pastoral, je vois beaucoup, beaucoup de souffrances, je vois beaucoup de situations qui me brisent le cœur. Et par exemple, alors j'ai personne en tête, mais je vous donne un exemple, si jamais je recueille une jeune femme ou même un jeune homme qui souffre et se fait du mal par l'automutilation, je ne vais pas lui dire « arrête de t'automutiler ». Je sais très bien que cette automutilation a une racine quelque part. Ça sort d'où? Et je ne sais pas. Les addictions, c'est pas arrête de regarder ça, c'est pourquoi est-ce qu'au début tu es tombé là-dedans? Et il y a un travail qui n'est pas magique, ni mystique, non plus qui n'est pas automatique, mais réfléchissez. Ce que vous devez mettre à mort, c'est pas le symptôme, c'est la racine. Ce que vous devez mettre à mort, c'est pas le symptôme, c'est la maladie. Donc, exemple, une jeune fille qui vient me voir et qui a des soucis avec l'automutilation, je voudrais la recueillir, prendre ma femme avec moi qui a beaucoup de discernement et d'expérience, réfléchir avec ces jeunes filles, ça vient d'où? Est-ce qu'il y a quelque chose à la maison? Est-ce qu'il y a un manque d'amour? Est-ce qu'il y a une carence? Est-ce qu'il y a un événement qui a déclenché ça? Et quand on réussit à identifier, cette fille, par exemple, je ne sais pas, cas hypothétique, a eu un père qui l'a battue, elle cherchait l'amour d'un père sur terre dans les yeux de son père, ça n'a jamais été le cas, et résultat, ça part en latte. Là, on trouve une racine. Tu vois l'amour que tu voulais dans ton père, il est normal, il est bon. Mais il est plus glorieux de trouver dans le regard du Père Céleste l'amour. Et on va aller voir en quoi est-ce que par l'Esprit tu vas réussir à aller chercher cet amour, cette approbation, pas dans les hommes qui t'entourent, pour justement marcher en nouveauté de vie. Et c'est dur, mais c'est magnifique. Donc quand on veut mettre à mort, il y a aussi question d'aller à la racine. D'aller à la racine des choses. Et des fois, ça, c'est clair, des fois, on a besoin de l'aide de quelqu'un. Allez à vos marques pour que les gens prient avec vous, réfléchissent avec vous. Mais et si vous essayez de mettre à mort les symptômes, vous allez constamment tourner en rond. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous êtes tombé dedans. Et je pense que la parole, ben je crois que la parole de Dieu, dans le verset que je vais donner là, qui est 2 Timothée 2, 24-25, il y a une succession de péchés. Et Timothée, Paul dit à Timothée que les gens doivent se dégager, des pièges du diable. C'est comme s'il y avait un moment où les gens sont tombés. Les gens sont tombés à un moment, je tombe des fois à un moment, et je m'empêtre des fois dans une succession de choses, mais si je n'ai pas compris de où j'étais tombé, je vais constamment tourner en rond. C'est souvent les mêmes choses. Soif d'approbation, désir d'être vu, respecté, aimé, soif d'accomplissement personnel, c'est souvent les mêmes choses, mais ça prend des formes très très différentes. Le Seigneur est là pour nous récupérer et nous montrer par sa parole qu'il nous aime et qu'il peut nous transformer. Franchement, on doit vivre selon Romains 5, 20, 21. Le péché, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Franchement. Sinon, on se touche chez nous aujourd'hui. Hein. Cinquièmement, se taire au lieu de parler. Se taire au lieu de parler. Spéciale dédicace pour tous les Français qui sont dans la salle. Ah là là, la critique. Utilisation de la langue, mais utilisation des commentaires en dessous des vidéos. Utilisation du bouton partage. Ah, qu'est-ce que tu partages? Pourquoi tu partages? Qu'est-ce que tu veux dire? À qui est-ce que tu as envie d'envoyer un pic? La marque du disciple mature se mesure très souvent par l'utilisation de la langue. Et quand je dis langue, j'entends... Ça vient du cœur. Quand je dis langue, j'entends le clavier. Quand je dis langue, j'entends le smartphone, ce qu'on écrit. J'entends plein de choses. Écoutez ce que Psaume 39 nous dit. Je veillerai sur ma conduite de peur de pécher en parole. Je mettrai un frein à mes lèvres tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur était vive. Mon cœur brûlait au fond de moi. Tu sens le gars qui galère, hein? Non! Non! Ça vous est jamais arrivé, non? Non? Une injustice, un mensonge à votre égard? Oh, je vais régler le truc. Je dis pas qu'il faut toujours se taire. On le verra après. Je dis pas qu'il y a des fois des façons de faire. Mais la plupart du temps, sérieux. On laisse passer. Est-ce que je réagis dans mon cœur? Ouais, Seigneur, aide-moi à aimer cette personne. Allez, ça va aller, on va aller autre part, on va faire autre chose. Jacques 3, en effet, nous trébuchons bien de tous manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr capable de tenir tout son corps en bride. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées, sont domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père et nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Se taire au lieu de parler, c'est vraiment une discipline que je vous encourage à faire. Tant de blessures pourraient être évitées juste en disant mais non seulement je vais rien dire devant la personne, mais je ne vais pas le ruminer chez moi, quoi. Et que quand ça arrive, je réfléchis, je dis, Seigneur, est-ce que ça me gêne, là? Ouais, ça me gêne. Pourquoi ça me gêne? Je me sens humilié. C'est bon, quoi. Allez, je vais rentrer à la maison et je vais glorifier Dieu. Je dis pas qu'il faut se taire, surtout un peu comme la question d'aimer au lieu d'offenser. Il y a des fois, on dit, non, là, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, la vérité, c'est ça. Mais il y a des cadres. Mais moi, ce que je veux dire, c'est ce ruminage, cette calomnie, cette critique, les balles perdues. Apprenons-nous à nous taire. Et si jamais vous avez l'impression d'être hypocrite parce que vous vous taisez, c'est une question de cœur. Seigneur, donne-moi les nouvelles motivations maintenant. Je veux avoir un cœur nouveau sur cette situation-là. Encourager au lieu de critiquer, on est un peu sur une version positive. Voici ce que Éphésiens 4, 29 nous dit. Ça a été le leitmotiv, ce verset, quand on arrivait dans notre église à Saint-Étienne. Il y avait des trucs, des bruits insignifiants, hein. qui passaient dans les couloirs et tu n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une critique vis-à-vis de quelqu'un et quelqu'un qui essaie de dire quelque chose et on ne comprenait pas trop. Et je me suis dit, bah, prenons Éphésiens 4, 29 et puis on va le vivre. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Qui dit quoi ? Pas de paroles malsaines, mais quand vous parlez, édifiez-vous les uns les autres. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, que toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vaste programme pour moi. Et je peux vous dire, là, les six premiers points qu'on a vus, nous ne pouvons pas les vivre. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Hein. C'est six choses, je vais revoir la septième après. C'est ce qu'on appelle la sanctification. On est justifié par la foi seule. Mais la foi qui sauve ne vient jamais seule. Je répète, vous êtes justifié par la foi seule. La foi en Christ, c'est un cadeau, c'est ça qui vous sauve. Le regard, juste regarder, comme il l'a dit David. On regarde, ça y est. Mais cette foi qui vous a sauvé, elle n'est jamais seule. Ça veut dire quoi ? Elle va s'accompagner de conséquences d'une vie transformée. La vie transformée, la sanctification, par ces petits outils que je vous propose, c'est un signe de votre conversion, ce n'est pas la cause de votre conversion. Je ne suis pas en train de vous dire, faites ça et vous êtes converti. Ben non, c'est Christ qui vous a amené à lui, c'est sa lumière, c'est la croix qui vous a sauvé. Et dans sa parole, on voit qu'on est amené à montrer du fruit digne de ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Donc ce que je vous appelle à vivre, ce que je nous appelle à vivre dans notre génération, c'est juste un signe. Et on est là pour se former, on est là pour apprendre. Mais si vous faites de ça votre cause du salut, vous allez être malheureux. Si vous faites « ça j'y arrive, et donc Dieu m'aime », ou alors « ça j'y arrive pas, et donc Dieu m'aime plus », c'est pas ça. C'est l'évangile, c'est la grâce, mais cette grâce, elle, est sanctifiante. Dietrich Bonhoeffer disait, un théologien allemand, il disait « C'est malheureux dans nos églises, on a aujourd'hui ce qu'on appelle la grâce bon marché. La grâce permissive. Ah, je suis sauvé par grâce. Oh, mais je peux faire ce que je veux, en fait. » En fait, ce n'est pas le principe. La grâce nous transforme. Le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne, psaume 130 nous dit. En fait, le pardon, il est là pour nous faire « Ah !» Il faut que je grandisse en Christ. Et dernièrement, alors c'est un peu plus pratico-pratique, vivre limité au lieu de vivre comme une intelligence artificielle. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand j'étais aux États-Unis en fac de théologie, mon prof de counseling biblique a dit « Vous savez quoi ? Si vous voulez régler 80% de vos soucis, faites ces trois choses. » Alors moi, je suis là, je prends mon stylo, qu'est-ce que je dois faire ? Et il dit « 1. Dormez bien. » 2. Prenez des pauses et reposez-vous. 3. Mangez bien. Vous allez régler énormément de vos problèmes. En d'autres termes, vous et moi, on est des porteurs d'images limités, on est un gros sac de sable le soir autour de 23h, on ne peut pas enchaîner 7-8 jours comme ça, on doit dormir. Mais on doit aussi apprendre à couper avec le téléphone. Ces petites images qui nous sont envoyées, ce scrolling infini, n'est pas fait pour nous. Alors je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais on doit apprendre à comprendre qu'on est limité. Dormez bien et mangez bien, parce que ça impacte beaucoup de choses. Un rythme sain, réussir à trouver l'équilibre dans toutes ces choses, c'est pas une question de tout ou rien. Mais ça règle beaucoup de soucis, en fait. Franchement, quand on compte, on se dit, je suis pas obligé d'être à cheval et au taquet sur toutes les problématiques de société maintenant. Franchement, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez prendre 2 semaines sans téléphone, vous allez retrouver à la fin, il n'y aura pas de souci. Alors, si vous avez des inscriptions à faire dans des universités, faites-les. Mais il n'y a pas de souci de couper. Hein. Ça se fait bien. Et voilà les 7 outils. Confier au lieu de flipper, aimer au lieu d'offenser, fuir au lieu de résister, mettre à mort au lieu d'entretenir, se taire au lieu de parler, encourager au lieu de critiquer, et vivre limité au lieu d'être comme une intelligence artificielle. C'est pas exhaustif, on pourrait réfléchir à d'autres choses, ça répond peut-être pas à toutes vos questions, mais comment je peux avoir une vie de victoire sur le péché ? Mais si vous comprenez, un, le seul héros c'est Christ, C'est dans sa parole que je vais trouver les appuis pour grandir. C'est dans sa grâce que je vais me fortifier. Et ça doit être vécu en église aussi. Donc il y a aussi vos églises locales, vos groupes de jeunes qui sont un lieu important. Franchement, vous êtes sur la bonne direction, la bonne voie. Et on a encore 28 minutes de questions. Ça vous va? Désolé, j'étais un petit peu long. Ouais, ça va. Je ne sais pas si je vais réussir à répondre à tout. Je ferai de mon mieux pour trouver des bonnes réponses. Deux questions déjà. Oui.
Pour les statistiques, tu avais dit que tu avais des références bibliques. La dernière, c'est quoi?
Alors, étant donné... excuse-moi. La question était pour les 7 des références bibliques. La dernière, j'en ai pas noté parce que c'est vraiment du pratique au pratique. C'est en gros, comprenons que nous sommes limités, on dort bien, on se couche à la bonne heure. Alors je sais quand on est jeune, on fait des nuits blanches, y a pas de souci là-dessus. Mais c'est quand vous êtes dans une routine de vie, vous allez comprendre que si vous dormez mal, vous réagissez mal. Et si vous réagissez mal, vous perdez plus facilement patience. Donc c'est vraiment cette idée-là. Elle est vraiment pratique au pratique. Ouais, question là. Est-ce que je réussis à les appliquer? Alors, par sa grâce, c'est vraiment là où je veux m'appuyer, ouais. Est-ce que je réussis à avoir la victoire tous les jours? Non, parce que c'est... Mais c'est la parole de Dieu nous l'enseigne. Et donc, vu qu'on est des disciples, on veut marcher sur le chemin étroit. En fait, Dieu nous dit que la porte, elle est étroite et le chemin est étroit. Et souvent, on oublie que le chemin, il est étroit. Moi, je veux être un disciple de Christ et je veux comprendre que ça, c'est pas la cause de mon salut. Mais c'est un signe. Et donc, si un jour je ne le vis plus ou je le prends à la légère, je dis, est-ce que Christ vit vraiment en moi? C'est une vraie question, en fait. Donc moi, je veux vraiment le vivre. Hein. Ouais. D'autres questions? Ouais, devant.
Je voulais demander, quand on est hypersensible, est-ce que c'est une caractéristique où ces choses-là peuvent, la chair peut beaucoup plus, des fois, impacter, beaucoup plus...